France Culture.
Objectif Mars, c'est là où les États-Unis de Donald Trump veulent planter leur drapeau grâce à un programme spatial dopé aux technologies de SpaceX. Face à cette concurrence, l'Europe a modernisé ses lanceurs avec Ariane 6 et Vega C. Mais peut-elle véritablement tirer son épingle du jeu grâce à ses fusées? Pour en discuter, deux invités ce soir. Paul Vorer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Espace de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Face à vous, Alban Guillaumard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en droit de l'espace à l'université Panthéon-Assas et au Collège de France. Et vous coordonnez également le groupe Objectif Lune de l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Les États-Unis se considèrent à nouveau comme une nation en croissance, une nation qui augmente sa richesse, étend son territoire, construit des villes, répond à nos attentes et porte son drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons. Nous poursuivrons notre destinée vers les étoiles avec le lancement d'astronautes américains qui iront planter la bannière étoilée sur la planète Mars.
Sur la planète Mars, donc avec insistance, il l'exprime Donald Trump lors de son discours d'investiture la semaine dernière, c'était le 20 janvier. Paul Vorer, est-ce que c'est une vision, une ambition crédible? Est-ce que Donald Trump sera le président qui amènera les États-Unis et le premier homme sur Mars?
Crédible, ça dépend probablement des échéances. Là, à l'échéance de son second mandat, ça apparaît extrêmement ambitieux, ne serait-ce que simplement parce que les fenêtres de tir vers Mars sont assez rares finalement et s'ouvrent tous les deux ou trois ans à peu près.
Vous dire pourquoi hein, c'est parce que
oui, c'est l'alignement des planètes,
voilà, se rapproche.
C'est une question de d'orbite. Il y a une orbite qui est très efficace qui s'appelle l'orbite de transfert de Oman et qui permet de d'arriver sur Mars en utilisant le moins de carburant possible. Alors derrière la déclaration de Donald Trump, on peut probablement voir la patte d'Elon Musk effectivement, qui a toujours été un avocat, un défenseur de la vision martienne et de la volonté d'aller sur Mars. Il faut savoir que le contexte actuel, c'est plutôt la recherche de l'exploration vers la Lune. Donald Trump, d'ailleurs, a lancé lui-même un grand programme lunaire à partir de 2017, qui a pris le nom d'Artemis, et qui est une construction politico-industrielle, on va dire, assez robuste, parce que ça a remis, après la période de Barack Obama, où il y avait eu un petit peu de flottement, ça a remis un petit peu derrière la NASA et derrière le leadership de la NASA, la plupart des industriels américains, mais ça a permis aussi de mettre en place une coopération internationale dans le cadre d'un grand programme lunaire. Et il était prévu en fait que ce programme lunaire soit un petit peu l'horizon des prochaines décennies, si vous voulez, dans l'exploration spatiale, sachant qu'il y a en plus en face un programme chinois, donc il y avait tout un contexte géopolitique qui était en train de se mettre en place avec des alliances de part et d'autre. Et on peut se demander avec ces annonces finalement si on est en cas d'une rupture ou d'une continuité, parce que dans le cadre d'Artemis, il y a toujours eu cette vision que la Lune serait le marchepied, si vous voulez, vers des futures missions martiennes. Et c'est d'ailleurs à l'heure actuelle encore sur la page web du programme Artemis de la NASA, on a tout de suite la mention de préparation de futures missions martiennes. Donc on navigue aujourd'hui un petit peu dans une incertitude et il y a une forme d'ambiguïté sur réellement les ambitions de cela. Est-ce que à terme on pourrait pas ça pourrait pas être transformé en ambition plus lointaine, à plus long terme.
Voilà, parce que l'une des idées, effectivement, du programme Artemis, c'était que la Lune soit une étape pour se rendre sur Mars. Alban Guillaumard, au-delà, d'ailleurs, est-ce que cette annonce, cette ambition exprimée par Donald Trump, est-ce que cela raconte aussi la fusion presque totale, inédite, entre le secteur privé à travers SpaceX et l'État fédéral sur cette ambition spatiale?
Le soutien, en tout cas, de l'État fédéral américain à son industrie spatiale est beaucoup plus ancien que les années 2000, puisque, enfin, si on fait une généalogie de l'économie spatiale américaine, on peut quand même déjà identifier une participation simple d'acteurs privés, notamment l'industrie militaire, dès les années 50 aux États-Unis, quand on commence à développer des capacités spatiales. Et à partir des années 60, on a une première vague d'ouverture progressive sur des modèles un peu public-privé, et un tournant réel qui est pris au détour des années 90 avec la chute du mur donc la chute de l'URSS par la même occasion, où finalement il faut trouver une nouvelle motivation aux activités spatiales, aux ambitions spatiales plutôt américaines, sur l'ensemble du spectre, hein, allant du satellitaire jusqu'à l'exploration, et en fin de compte d'une logique en tout cas de prestige annoncé. On surajoute ou on complète en tout cas ce discours par des volontés économiques. Et en fait, on soutient massivement l'industrie spatiale américaine. Enfin, en tout cas, l'État fédéral soutient massivement l'industrie spatiale américaine. On entend régulièrement ce discours de privatisation, de commercialisation. Mmh. Les acteurs privés sont là. Oui, ils sont là. Ils sont là, mais ils sont financés massivement par la puissance publique. Juste pour un chiffre, en 2024, SpaceX, c'est 3,8 milliards de dollars de commandes publiques. Et on estime que SpaceX a pu bénéficier d'à peu près 20 milliards de dollars depuis 2008 en investissement public américain. C'est massif.
Est-ce que ça veut dire que tout le discours autour du New Space, hein, cette tendance qui aurait commencé au milieu des années 2000 et qui aurait vu émerger tout un secteur privé dopé à la dépense publique, il faut le relativiser, ce discours. Ça s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue ?
Ça s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue qui est celle d'une évolution de l'architecture des rapports entre le public et le privé en matière spatiale. On est sur des industries qui coûtent extrêmement cher, notamment sur l'investissement au service de l'innovation. On a besoin d'un investissement public massif dans ces domaines économiques. Ce qu'on appelle le New Space, donc la nouvelle économie spatiale en bon français, c'est finalement une tendance économique qui émerge au tournant des années 2000 et qui se caractérise par essentiellement trois choses. D'une part, le risque de l'innovation assumé par le secteur privé. Ensuite, on a également une diversification des sources de financement en matière spatiale et également un changement des modèles d'activité. C'est-à-dire qu'une entreprise comme SpaceX, finalement, vous pouvez d'une part lui commander un programme, mais elle est également capable de s'engager sur l'ensemble du spectre, allant du lancement à l'opération de télécommunication. C'est-à-dire qu'on est sur une économie spatiale qui avant était centrée sur la machine, la production de machines, la fourniture d'une fusée, d'un satellite, et maintenant on est très centré sur une économie spatiale tournée vers le service. Donc SpaceX fournit des services de télécommunication via Starlink, des services de lancement via toute sa gamme de lanceurs, et c'est également engagé sur la fourniture de programmes pour les États-Unis, et en particulier avec le Crew Dragon qui permet d'envoyer des astronautes vers l'ISS, et le Starship qui, lorsqu'il sera pleinement opérationnel, arrivera sans doute à atteindre la Lune puis Mars.
Question un peu naïve peut-être, Paul Verheuer, mais pourquoi se rend-on dans l'espace aujourd'hui ? Quelles sont les motivations premières de la conquête spatiale ? Est-ce que ce sont des motivations militaires, scientifiques, fournir du service, et donc ce sont des motivations purement commerciales ? Quelles sont-elles, ces motivations ?
Vous avez cité la plupart des éléments, effectivement. Le spatial, ça sert essentiellement à récupérer des données. Fondamentalement, c'est la plupart des satellites servent à ça, et il y a trois activités principales qui sont menées dans le cadre de l'activité spatiale. C'est les communications. Donc historiquement, l'aspect commercial, c'était plutôt la télévision par satellite qui a tendance à décliner aujourd'hui, mais aussi des communications pour les militaires, pour divers services. La navigation qu'on utilise tous les jours, hein, qui à la fois ont des fonctions civiles et militaires, donc on parle du GPS, on parle du programme Galileo en Europe, et puis l'observation de la Terre. Et l'observation de la Terre, ça peut servir à beaucoup de choses. Ça peut servir évidemment pour des applications militaires dans le cadre de renseignement. Alors quand je dis observation, c'est observation, écoute électromagnétique, etc. Mais ça peut servir également à l'étude du climat, à des objectifs plus scientifiques. Et il y a deux autres, disons, fonctions un petit peu parallèles et un petit peu à côté, disons, de ces trois types de services qui sont très importants. Ce sont les sondes, disons, d'exploration lointaine, type aller sur Mars, les rovers martiens, les sondes autour de Jupiter, Saturne, etc., pour des objectifs purement scientifiques. Et puis, ce qu'on appelle le vol habité, c'est-à-dire les astronautes. Et là, historiquement, ce sont des objectifs vraiment de prestige dans le cadre géopolitique. C'est des programmes qui sont essentiellement politiques, plus que motivés par la science ou le commercial.
Alban Guillaumard, vous venez de nous expliquer que l'un des critères de la nouvelle économie spatiale, le New Space, était notamment de confier au secteur privé les innovations de rupture, notamment. Est-ce qu'elles existent, ces innovations, au cours des dernières années ? Si on prend l'exemple de SpaceX, est-ce que l'entreprise d'Elon Musk a été un grand innovateur en matière spatiale ?
Assurément, autant le personnage politique est plus trouble, autant l'ingénieur en chef est de SpaceX et la capacité d'innovation de cette entreprise au cours des depuis la fin des années début des années 2010, en tout cas sa capacité à se lancer notamment dans le secteur du lanceur réutilisable, à développer des méga constellations qui ont un bilan environnemental débattable, on pourra sans doute en reparler tout à l'heure, mais assurément SpaceX a eu une capacité d'innovation majeure.
Le lanceur réutilisable, pour expliquer ce que c'est, ce sont des fusées qui sont capables de décoller puis de revenir tout simplement.
Alors ce sont des fusées qui sont capables de décoller et de partiellement revenir. En tout cas, certains étages peuvent revenir, réatterrir et resservir au lancement suivant. Et c'est vrai que, mine de rien, la cadence de lancement extrêmement importante de SpaceX peut être réalisée grâce justement au lanceur réutilisable. On est quasiment à plus de 2 lancements par semaine en 2024. C'est assez impressionnant. Et également, donc, les constellations, les méga-constellations, c'est-à-dire un essaim de plusieurs milliers de satellites qui sont en orbite et qui fournissent des services de télécommunication, c'est-à-dire Starlink. Actuellement, on a à peu près 9 à 10 000 objets spatiaux qui sont en orbite. La moitié sont des Starlink lancés au cours des dernières années. Enfin, les deux tiers, me dit Paul. Donc, on a même dépassé cette quantité-là. Donc, on voit bien qu'on a une capacité d'innovation. Simplement, je voulais juste rebondir sur ce que disait Paul à l'instant et qui est très vrai. Il faut vraiment pas faire la confusion dans le débat sur les activités spatiales entre ce qui relève d'un côté des activités quotidiennes, satellitaires, orbitales, qui utilisent des orbites basses pour fournir des services essentiels, parfois vitaux à nos sociétés, géolocalisation, télécommunication, météo, transfert de données, et en parallèle, toutes les activités qui ont trait à l'exploration, qu'elles soient scientifiques, robotiques ou habitées.
Paul Vaurer, vous souhaitiez réagir, mais sur la question de l'innovation.
Oui, sur la question de l'innovation, je pense qu'il y a eu une innovation. Alors, quand on parle d'innovation de rupture, en fait, souvent, on confond parfois innovation de rupture d'un point de vue technologique ou ce que l'universitaire Clayton Christensen appelait disruptive innovation aux États-Unis, qui consiste en fait à faire une innovation aussi dans les méthodes de production, dans l'accès au marché, surtout aller sur des marchés qui ne sont pas forcément visés par des entreprises plus performantes. Et c'est un petit peu ce qu'a fait SpaceX au début, si vous voulez. Elle s'est attaquée à des marchés un petit peu plus bas dans la chaîne et elle est remontée petit à petit dans la filière en développant un modèle industriel extrêmement particulier, c'est-à-dire que là où le domaine spatial était plutôt un domaine, disons, d'artisanat d'art, d'une certaine façon, c'était des systèmes très complexes et en petite quantité, là on est véritablement passé à une industrialisation de l'espace avec ces lanceurs réutilisables qui permettent de lancer des milliers de satellites, et ça c'est très nouveau, et c'est pas fondamentalement une innovation technologique, disons, mais c'est une innovation industrielle, vraiment absolument majeure, et ça c'est les premiers à l'avoir fait, d'autres veulent se lancer dans ce même type d'opération, mais à l'heure actuelle, c'est le seul acteur qui a réussi à concevoir un modèle industriel de ce volume-là.
Et l'Europe dans tout ça, c'est évidemment la question que l'on se pose. Je voudrais vous faire entendre la voix de l'ancien président exécutif d'ArianeSpace. Il était depuis 2013 et il vient de quitter le groupe. Il s'agit de Stéphane Israël.
Monsieur Musk, il lance 70% de sa capacité pour son compte, pour la constellation Starlink. Donc, 7 fois sur 10, quand Monsieur Musk se met à lancer une fusée, c'est pour lui-même. Nous, quand on lance une fusée, c'est pour les autres. Et le problème que pose SpaceX, c'est pas uniquement pour Ariane. Le problème que pose SpaceX aujourd'hui, c'est que c'est un monsieur, une entreprise, qui construit des satellites, qui lance des satellites et qui les opère. 70% des satellites au-dessus de vos têtes appartiennent à Elon Musk. 7000 satellites sur 10 000 opérationnels appartiennent à Monsieur Musk. Donc la question, c'est pas SpaceX contre Ariane. La question, c'est Elon Musk et SpaceX versus l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale. Construire des satellites, les lancer, les opérer. Et comment l'Europe s'organise pour faire face à ça? Et je vous assure que c'est un grand défi.
Paul Vaurer, lorsqu'on entend Stéphane Israël, les chiffres qu'il met en avant et en lumière, on se demande quand même quelle est la place de l'Europe dans cette économie spatiale. Et quand on a aussi à l'esprit les difficultés considérables qui ont été celles de l'Europe pour le lancement d'Ariane 6.
Oui, effectivement, on peut se poser la question de la place de l'Europe. Et puis, d'une certaine manière, ça pose la question de la stratégie européenne. Qu'est-ce qu'on veut faire dans l'espace exactement? Est-ce qu'il y a cette volonté d'avoir une concurrence envers un acteur américain qui effectivement a une forme de domination, alors qui est probablement temporaire, puisqu'il y a d'autres acteurs qui veulent intervenir également dans ce domaine. Mais surtout, la question, c'est réellement qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a encore des points d'interrogation, par exemple, sur le modèle économique de Starlink, même si ça a l'air de relativement bien fonctionné aujourd'hui avec 4,6 millions de clients à travers le monde.
Et Starlink, on rappelle aussi ce que c'est, cette constellation de satellites qui permet de fournir en télécommunication une bonne partie de la planète.
Alors, une bonne partie de la planète, et puis ça a surtout eu des impacts géopolitiques assez majeurs, notamment en Ukraine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on les utilise de la même manière pour des opérations de sauvetage à Mayotte. Donc, ça commence à devenir une infrastructure très, 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 très importante qui a à la fois sauvé de nombreuses vies, et puis en même temps, toute la question que pose Stéphane Israël, finalement, je pense, dans cette intervention, c'est la question de l'indépendance et de l'autonomie par rapport à ce type de capacité. La dépendance potentielle à ce type d'infrastructure à l'avenir pour l'Europe pourrait être effectivement un problème très très important. Elle est déjà très dépendante des plateformes numériques typiquement, et là on a l'impression que le basculement s'opère également dans l'espace avec une dépendance accrue à des acteurs dont elle ne maîtrise absolument ni le développement ni les ambitions, et notamment dans le cas d'Elon Musk, les ambitions politiques.
Alban Guémard, vous souhaitez réagir aussi?
Oui, la remarque de Stéphane Israël est très vraie déjà sur le fait que la plupart des lancements d'Elon Musk sont auto-induits. Donc quand on prend la quantité de lancements, les lancements sont faits, la quantité de lancements est importante, il faut quand même le souligner, on est à 2 lancements par semaine, mais il a quand même raison sur un point, c'est vrai que ce nombre de lancements est auto-induit par les besoins de lancement de cette constellation Starlink. On en lance par essaim, et lancer des essaims de satellites pour en avoir plusieurs milliers, ça prend du temps. Mais en revanche, ce que je vois aussi dans cette intervention de Stéphane Israël, c'est un questionnement plus global sur le modèle d'activité spatiale que mène un État. Et en fait, on a un peu l'impression depuis la fin des années 2010 que le débat en matière spatiale est centré sur le modèle New Space, comme si c'était la seule stratégie unique qu'un État ou qu'une collectivité d'États, parce qu'en Europe on fait ça ensemble, pourrait engager. En réalité, il existe d'autres modèles d'activité spatiale à mener pour un État qui peuvent être centrés sur l'autonomie stratégique qui nécessitent plutôt l'autonomie stratégique comme seule, comme l'a rappelé Paul. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui fait une puissance spatiale? C'est à peu près la même chose depuis les années 50. Un lanceur, un objet à mettre dedans et la capacité de l'opérer. Si vous disposez de ces trois briques, vous êtes une puissance spatiale autonome. Mmh. Vous dictez votre politique spatiale. En Europe, on a, avec le retour d'Ariane 6 et de Vega C, cette autonomie qui est de retour. Et là, on va avoir deux dates en Europe qui vont être cruciales. La ministérielle de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, qui se réunit fin 2025. Et ensuite, le prochain budget pluriannuel de l'UE. Et à cette occasion, de l'Union européenne, pardon. Et à cette occasion, l'Europe peut investir aussi un autre modèle de politique spatiale, qui est celui de l'espace utile, autonome et souverain, c'est-à-dire poursuivre le questionnement des usages, se demander, nous, Européens, qu'est-ce qu'on finance dans les activités spatiales et à raison de quels services. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que le modèle New Space n'est pas le seul, il existe d'autres modèles et il faut le rappeler.
Et vous montrez le point, on sent que vous êtes activiste, au moins, sur le sujet. Paul Vorer, je vous fais réagir sur ce que vous disiez un peu plus tôt. L'Europe a du mal à définir, à dessiner ses ambitions en matière spatiale. Est-ce que quand même, depuis qu'Ariane a été lancée en juillet dernier, depuis aussi que l'Europe est parvenue à lancer la plus petite fusée italo-européenne Vega C, est-ce qu'on y voit plus clair quand même sur ces ambitions européennes en la matière?
En tout cas, on voit qu'il y a les capacités, qu'il y a l'expertise et qu'il y a la qualité européenne dans le domaine. On n'a pas du tout un problème d'expertise ou de talent en Europe. On sait faire et on saurait faire à peu près tout ce qu'on envisage de faire dans l'espace.
Donc c'est aussi un problème de coopération et de coordination entre les pays?
C'est pas seulement un problème de... Alors il y a un problème de coopération, ce qui a été mentionné d'ailleurs dans le rapport Draghi, un problème de fragmentation, si vous voulez, des ambitions. Il y a aussi un problème de budget, tout simplement, parce que ce que disait Alban était très juste, les Américains dépensent à peu près 80 milliards de dollars par an, en tout cas l'année dernière c'était le cas. En Europe, on est à moins de 20 milliards de dollars d'investissement public dans les activités spatiales, donc il y a clairement un problème à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est très fondamental et qui se voit d'ailleurs dans la personne d'Elon Musk, un petit peu, et puis les autres, Jeff Bezos et toute la Silicon Valley qui tourne autour aujourd'hui du pouvoir américain, c'est la question du lien très fort qui s'est effectué ces dernières années entre l'espace et le numérique. Et donc c'est là aussi qu'il y a une vraie faiblesse en Europe, c'est la capacité à créer des plateformes numériques très importantes qui peuvent se servir de l'espace et des données générées par le spatial pour générer alors soit de la valeur, soit de l'utilité pour des services utiles, comme le disait Alban, d'une autre manière, mais si vous voulez, cette capacité en bout de chaîne à utiliser ces données, à en faire, et puis surtout, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, à utiliser ce type de capacité pour développer des nouveaux outils qui seront vraisemblablement les outils de demain dont on se servira. Ça, c'est un vrai sujet en Europe. Et donc, c'est pas seulement sur le spatial en soi. Le spatial n'est plus en silo aujourd'hui. Il s'est beaucoup banalisé, finalement, ces dernières années. Et ça reste une infrastructure à la fois de transmission et de création de données qui un petit peu comme une autre aujourd'hui, finalement.
Alban Guillaume, un autre point crucial, c'est la question du droit. On a beaucoup décrit l'espace comme une espèce de Far West, sans normes, sans règles, sans droits institués pour le moment. Vous, ce que vous expliquez lorsqu'on vous lit, c'est que c'est important de maîtriser la fabrique de la norme, la fabrique du droit dans ce domaine. Et d'ailleurs, une fois de plus, les États-Unis sont leaders en la matière.
Effectivement, l'espace extra-atmosphérique n'est pas un Far West. Et j'insiste sur ce point-là. Il y a du droit, il y a même du droit relativement ancien, puisqu'à partir de la fin des années 50, en fait, les Nations Unies se saisissent de l'objet espace extra-atmosphérique et vont héberger un dialogue diplomatique, certes dominé le dialogue soviético-américain, mais mine de rien avec des contributions assez sérieuses d'autres États, et va mener ce dialogue, en tout cas, à l'instauration de 5 conventions internationales en matière spatiale, la première étant le traité de l'espace de 1967, qui, en mine de rien, en 28 articles, arrive à toujours être pertinent encore aujourd'hui. Puisque
fixe un cadre qui demeure.
Fixe un cadre efficace qui demeure et qui surtout promeut la coopération et la paix en matière spatiale, et qui fournit, et ça, c'est très important de le noter, dès 1967, une place aux activités non gouvernementales, sous-entendu les activités commerciales dans l'espace. Celles-ci sont donc réglementées. Et on a bien un cadre qui est fourni par ces 5 accords. Ensuite, on a, donc, après le traité de 67, on en a 4 autres. On va pas faire la liste ici, mais en tout cas, on a ce traité qui existe, qui est là, qui est cette constitution fondamentale en matière spatiale. Et après l'accord sur la Lune de 1979, qui est le dernier des 5, on ne va plus faire de convention internationale en matière spatiale. Sans faire un cours de droit, on arrive ensuite sur une autre période où on fait des résolutions, l'Assemblée générale des Nations Unies en tout cas fabrique des résolutions pour l'espace, et finalement ce paysage juridique en matière spatiale vivait plutôt correctement jusqu'au détour des années 2010, et finalement à la fin de ces années 2010, en 2019 puis en 2020, l'annonce du programme Artemis aux États-Unis est accompagnée d'une innovation juridique que vous avez mentionnée, que sont les accords Artemis. Alors c'est quoi les accords Artemis? C'est une constellation, là encore, d'accords bilatéraux proposés par les Américains et le gouvernement américain à des agences spatiales partenaires ou des États partenaires. En fonction de l'État, c'est rarement la même autorité qui signe. Et que nous disent ces accords? Eh bien, ces accords proposent, en une dizaine de sections, à peu près de poser en tout cas une interprétation du droit applicable à l'exploration des corps célestes. Et sont notamment contenues dans ces accords une disposition qui a fait couler beaucoup d'encre chez les juristes, que sont les safety zones, donc les zones de sécurité. Une formulation un peu plus stratégique aurait été de dire zone de non-interférence, c'est-à-dire quand je pose mon objet sur la Lune, je dispose d'un périmètre autour de lui, où globalement je demande aux États coopérants de ne pas, en tout cas aux autres États, de façon plus générale, de ne pas rentrer, pour des raisons de protection de non-interférence.
Mais ça, pour bien comprendre ce qui s'est joué, les États-Unis l'ont imposé aux agences et aux États avec qui ils ont, avec lesquels ils ont noué des accords, ou c'est le fruit d'une collaboration, d'une discussion saine et équilibrée?
La plume a été tenue aux États-Unis et à Washington avec des allers-retours avec la NASA. Dans les faits, ces accords sont proposés à la signature et les États le signent en leur pleine volonté. La France l'a fait en juin 2022 et actuellement on a plus d'une cinquantaine d'États, autour d'une cinquantaine d'États qui ont signé les accords Artemis. C'est-à-dire que ces accords Artemis, qui ont la Lune comme ligne de mire, ont beaucoup plus d'états parties que l'accord de 1979 sur la Lune lui-même. État partie étant un abus de langage, parce que c'est pas vraiment un accord international, c'est l'accord Artemis, mais on va pas rentrer dans le débat. Mais ce que ça dit de la stratégie juridique, ça dit que le droit de l'espace, et le droit des activités spatiales en général, est un terrain stratégique à investir quand on est une puissance spatiale. Maîtriser le droit applicable sur un corps céleste, en particulier sur un corps céleste qu'est la Lune, quand le traité de 67 est relativement peu clair sur leur statut et que l'accord de 79 n'a pas rencontré le succès escompté, c'est crucial et c'est ça que veulent dire les accords Artemis.
Paul Vorer, une réaction?
Oui, comme disait Alban, il y a des grands principes qui ont été mis en place très tôt finalement dans l'histoire spatiale et donc une régulation des activités spatiales. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec la modification de la morphologie de ces activités spatiales qui se massifient, qui se densifient, qui se privatisent dans une certaine mesure, c'est aussi effectivement cette remise en cause du multilatéralisme finalement qui a remis dans le contexte plus plus large d'une remise en cause globale du multilatéralisme et des accords signés au sein de l'ONU, et de la part des États-Unis effectivement profiter d'une certaine manière de leur très grande importance dans le domaine spatial pour asseoir leur tradition juridique finalement qui est celle de la common law et de la coutume pour mener des activités dont en fonction de leur déroulement, en fonction de la manière dont ils vont mener ces activités et dont on mènera ces activités en coopération avec eux ou non, pourrait créer de la norme ex nihilo finalement, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes dans les faits d'un point de vue capacitaire. Comment gérer aujourd'hui des constellations de satellites, comment gérer aujourd'hui le trafic, la gestion du trafic spatial, ça c'est un énorme sujet. Et puis il y a évidemment tout le volet environnemental aujourd'hui dans l'espace qui pose énormément de questions avec cette massification des activités.
Une courte réaction à Bangura.
Oui, un exemple extrêmement concret sur cette stratégie juridique, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la plupart des États qui visent aujourd'hui la Lune ne visent pas la Lune dans son ensemble, mais en réalité une zone extrêmement petite qui est le pôle sud. Pourquoi le pôle sud de la Lune ? Parce que on a de l'eau présente dans les cratères sous une forme gelée, enfin en tout cas elle est congelée. Et en fait, cette eau est présente, elle a un intérêt pour son utilisation, notamment pour le support vie sur place. Mais ce qui est intéressant sur ce pôle sud, c'est que vous allez nécessairement avoir besoin d'un cadre international plein, c'est-à-dire pas seulement les Américains et leurs partenaires, mais qui prennent aussi en considération les intérêts de l'autre pôle qui vise la Lune, le pôle sino-russe. Et donc c'est là où on voit que les accords Artemis sont une bonne base, sans doute, enfin en tout cas une base existante plutôt, sans rentrer dans le débat sur leur contenu, mais une base existante, mais une base insuffisante, et véritablement le seul endroit où on a produit du droit international multilatéral et qui a plutôt bien vieilli, c'est les Nations Unies, et c'est ensemble.
C'est important, hein, Paul Vorer, ce que vous avez mentionné un peu plus tôt. Toute cette discussion s'inscrit évidemment dans un cadre et un contexte géopolitique beaucoup, beaucoup plus large. Est-ce que là encore, la nouvelle économie spatiale, les nouveaux enjeux spatiaux d'ailleurs dans leur ensemble, sont un énième sujet de la compétition entre la Chine et les États-Unis ?
Oui, c'est tout à fait le sous-texte des déclarations de Donald Trump, et puis de toute façon, depuis plusieurs années, c'est le sous-texte stratégique qui se dessine là-dedans, sachant qu'il y a une forme de parallélisme dans les programmes d'exploration, dans les programmes de militarisation de l'espace aussi, qui sont mis en place à la fois aux États-Unis et en Chine. Alors pour l'instant, on reste tout à fait sous le seuil de la violence armée, mais on voit effectivement des objets qui évoluent de manière un petit peu...
C'est principalement des satellites ?
Des satellites, voilà, mais qui évoluent de manière un petit peu particulière dans l'espace, disons, avec des rapprochements des uns... par rapport aux autres, et alors ça c'est assez commun finalement hein, dans le domaine spatial, mais il faut voir que la Chine est en train de monter en puissance de façon très importante sur ce domaine, que ce soit dans les domaines civils ou dans le domaine militaire d'ailleurs, et qu'elle a une forme de stabilité par rapport aux États-Unis avec la mise en place de plans quinquennaux qui décident à long terme finalement la mise en place de projets, avec sa propre version du New Space qui n'est vraiment pas le New Space américain, qui n'a pas du tout la même forme, mais il y a une forme de montée en puissance qui est progressive et qui est par contre extrêmement efficace. Si vous voulez, ces dernières années, ils ont mis en place une station spatiale chinoise, ils ont du vol habité, ils ont de l'exploration spatiale vers les autres planètes, ils ont de l'espace militaire, ils ont toute une famille de lanceurs qui permettent de mettre en place des satellites, ils ont des programmes de constellations, donc c'est vraiment devenu la deuxième puissance spatiale au monde et qui remonte très très rapidement.
Question dont la réponse doit valoir très très cher quand même, Paul Vorer, est-ce que la Chine est capable de dépasser le programme Artemis 3, c'est-à-dire de retourner sur la Lune, enfin ce sera la première fois pour la Chine, mais en tout cas de replacer un être humain sur la Lune avant les États-Unis ?
C'est une vraie hypothèse qui a du sens aujourd'hui. On peut se poser la question, étant donné que le programme Artemis, malgré sa construction, son infrastructure, son architecture politico-industrielle est très solide. Il y a des accords bipartisans aux États-Unis. Tous les industriels sont à peu près alignés derrière la NASA parce qu'ils reçoivent des contrats. Et la coopération internationale dans le cadre des accords Artemis et au-delà dans le cadre d'accords industriels et de participation, typiquement il y a une participation européenne dans le programme Artemis. Fondamentalement, c'est dans l'aspect concret qu'il y a beaucoup plus de difficultés aujourd'hui, qu'on voit que la plupart des éléments de ce programme sont en retard, que finalement, d'un point de vue technique, ce programme est extrêmement complexe, beaucoup, beaucoup plus complexe que le programme Apollo des années 60, où tout était contenu dans une seule fusée. Là, on parle de probablement plusieurs dizaines de lancements pour un seul atterrissage sur la Lune. Et donc, il y a des signaux faibles qui émergent un petit peu au niveau de la Chine pour voir qu'une architecture potentiellement beaucoup plus simplifiée, avec des budgets moindres, mais pourrait permettre effectivement de poser relativement rapidement un taïkonaute sur la Lune. On n'en est pas encore là. D'ailleurs, la Chine ne l'évoque pas publiquement, n'évoque pas une date publiquement. On parle de au-delà des années 2030. Mais à force de retard, on en a vu un avec le tir de Starship il y a quelques semaines, à force de retard au niveau des États-Unis, effectivement, il y a potentiellement une fenêtre d'opportunité qui commence à s'ouvrir pour la Chine.
Alban Guillaumard, je reviens un instant à l'Europe. On a bien compris, grâce à vos explications à tous les deux, que l'une des fonctions premières de la dimension commerciale de l'espace était de récolter des données. Comment l'Europe se sert-elle de ces données, justement, en matière climatique? Est-ce qu'il y a un avantage comparatif aussi de l'Europe dans ce domaine-là?
L'Europe a même le programme premier, sinon le programme phare d'observation de la Terre et notamment de mesure de ces données climatiques, c'est-à-dire le programme Copernicus, données qui sont en plus fournies en open source à peu près au monde entier, enfin, en tout cas au monde entier, et clairement, la mesure des variables climatiques depuis l'espace, l'Europe s'est investie dedans depuis plusieurs décennies et ce programme Copernicus est vraiment à saluer. C'est un atout phare en tout cas que l'Europe a dans sa manche en matière spatiale. Et justement, c'est là où si on regarde cette mesure du climat depuis l'espace, finalement ça sert à quoi globalement? Qu'est-ce qui unit l'activité spatiale et les activités d'exploration? Prendre de la hauteur, prendre du recul vis-à-vis de notre planète Terre pour des enjeux de données, de mesure du climat, de télécommunication, de géolocalisation. Et puis, si on en arrive aux activités d'exploration, on prend du recul pourquoi? On prend du recul pour aller découvrir comment fonctionnent d'autres planètes de notre système solaire et sans doute aussi essayer de comprendre comment la nôtre fonctionne. En retour, sur des programmes scientifiques, c'est aussi ça qui motive les ambitions lunaires. Il y a le contexte géopolitique, il y a le contexte économique, il y a évidemment le contexte politique même aux États-Unis et en Europe, mais derrière il y a aussi une grande ambition scientifique et de la science nouvelle à effectuer sur ce satellite naturel, à la fois sur sa connaissance géologique. On connaît très peu géologiquement notre satellite naturel, on va faire, mais rien que la mission indienne Chandrayaan 3, on a très peu parlé d'Inde, mais c'est clairement un continent à avoir en tête quand on parle de spatial au 21e siècle. La mission Chandrayaan 3, quand elle est allée au pôle sud de la Lune et qu'elle a fait des mesures sur place, on a fait des découvertes sur la composition de soufre, combien de soufre contient ce sol lunaire, également sur l'évolution de sa température quand on creuse un peu. Et en fait, on voit bien qu'on a de la science derrière tout ça. Donc, il faut aussi décentrer un peu, prendre de la hauteur et revenir aux enjeux scientifiques.
Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, de cet échange. Paul Vorer, je rappelle que vous êtes responsable du programme Espace de l'IFRI et Alban Guillaumard, vous êtes chercheur en droit de l'espace à l'université Panthéon-Assas et au Collège de France. Vous coordonnez également le groupe Objectif Lune de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie. Et tout de suite, nous avons rendez-vous avec la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Daviet. Bonjour Emmanuelle, bonsoir même.
Bonsoir Quentin, bonsoir Xavier Mauduit.
Bonsoir Emmanuelle Daviet.
Je commence par la lecture de deux messages reçus en tout début de semaine après votre émission intitulée « Après-guerre, la reconstruction, accueillir les déportés ». Un auditeur nous écrit « Bravo pour l'émission de ce jour qui a abordé un sujet rarement présenté en profondeur et la remarquable qualité des intervenants. Comme quoi, quand on croit connaître un peu le sujet, on en ignore quasiment tout. » Et puis cet autre courrier « Merci pour votre écoute respectueuse et patiente, Xavier Mauduit. Cela fait du bien pour l'auditrice que je suis de pouvoir écouter. Écoutez calmement vos interlocuteurs et vous-même sans ressentir que chacun est en sursis sur son temps de parole. Vous êtes l'un des derniers à mener vos émissions dans cet esprit tranquille et c'est ainsi que nous en profitons pleinement. Alors, des auditeurs satisfaits par l'émission et qui ont des questions pour vous, Xavier Mauduit. On commence avec celle-ci. Comment choisissez-vous les thématiques ou les périodes que vous abordez dans votre émission ?
C'est beaucoup de temps de préparation des émissions, effectivement, de réfléchir aux sujets à aborder. Bien entendu, il y a l'écho à l'actualité. Ça, c'est vraiment avec Maïwenn Guizhou qui assure la programmation de l'émission, des discussions, en disant en ce moment, voilà, on sent qu'il faut parler de ça parce que c'est une préoccupation. Puis l'actualité beaucoup plus concrète, hein, on le voit bien quand il y a un événement quelque part dans le monde, eh bien, c'est nécessaire d'avoir un recul historique. Ça nous arrive également de faire ce qu'on appelle une contre-programmation. Dans un monde où les actualités sont tantinée angoissante, il faut le dire, nous allons regarder ailleurs ce qui se passe. Donc ça permet d'avoir des thèmes extrêmement larges. Et là, il y avait cette commémoration des attentats de Charlie Hebdo, par exemple. Eh bien, le thème choisi, c'est l'histoire du blasphème. Donc là, ça nous donne envie parfois de nous envoyer en l'air pour une histoire des ballons dirigeables. Vous voyez, donc c'est ce jeu-là. La chance que nous avons avec l'histoire, c'est que c'est foisonnant.
Alors, en tant qu'historien, précisément, comment parvenez-vous à faire dialoguer rigueur académique et accessibilité pour le grand public ?
C'est ici tout un enjeu. France Culture, c'est un média, c'est la radio. Donc, les gens, quand ils écoutent la radio, ils font souvent autre chose. Certains sont en voiture. Moi, j'ai beaucoup de sportifs qui écoutent en podcast. Donc, il faut réussir à se dire que nous avons un moment de divertissement. Et là, je reprends une idée de Marc Bloch, l'historien, et dans le même temps, faire passer des savoirs. Vous savez, Emmanuel, Napoléon va toujours perdre à Waterloo. Après, c'est comment on le raconte. L'enjeu, c'est que l'émission ne soit pas un séminaire d'université, que ça s'adresse à un très grand public, et que la vulgarisation, pour utiliser ce mot-là, c'est juste permettre la transmission des savoirs, que les fruits de la recherche arrivent au plus grand nombre, mais c'est une mission du service public aussi.
Alors, ce public que vous connaissez bien a également cette question. L'histoire est parfois instrumentalisée dans les débats publics ou politiques. Comment un historien comme vous peut-il rester neutre face à ces enjeux ?
C'est très difficile, hein. L'intérêt de l'histoire, c'est la complexité. L'histoire, c'est ce qui s'est passé auparavant. Et l'histoire, c'est une discipline scientifique. Cette discipline scientifique qui sert toute une réflexion avec des méthodes, avec de la rigueur. Dès lors, il y a comme une démarche où l'on est posé en tant que chercheur, chercheuse, sur son objet d'étude. La vigilance que historiens, historiennes ont sur l'utilisation politique de l'histoire, c'est la même vigilance qu'ont tous les citoyens et toutes les citoyennes. Se méfier tout le temps quand on voit l'histoire qui est dans la bouche de quelqu'un qui en fait un usage politique. Vaut mieux repartir, et c'est l'avantage d'avoir une heure sur France Culture, sur le savoir, sur les chercheurs, les chercheuses, et dès lors, on peut mettre tout ça en perspective.
Quel est, selon vous, le plus grand défi pour les historiens dans les années à venir, demande un auditeur.
Le plus grand défi, il est pour moi évident, c'est la remise en cause des savoirs. C'est-à-dire considérer l'histoire comme une opinion. L'histoire, c'est pas une opinion, je viens de vous le dire, c'est une discipline scientifique. Et puis, l'enjeu, c'est l'idée que la vérité de chacun doit être respectée comme une vérité sûre et solide. Non, parfois, on se trompe. Et donc, la négation de tout débat, la négation de toute confrontation d'arguments, c'est au cœur du problème. Je suis l'héritier, mais comme vous, de toute cette réflexion qui nous conduit, mais bien avant le siècle des Lumières, cette pensée, comment on construit la pensée, comment on argumente, on est héritier de ça, c'est-à-dire le savoir avant tout, l'intelligence avant tout, essayons.
Alors, des questions un peu plus personnelles à présent. D'où vous vient votre passion pour l'histoire, demande une auditrice.
Très jeune. Les premières fiches qu'on remplit à la rentrée des classes pour dire quel métier voulez-vous faire, moi j'ai toujours mis professeur d'histoire ou historien, j'ai toujours mis ça. Mais je ne sais pas comment. Je sais que l'émotion face à la trace du passé, elle a toujours été là.
Alors vous aurez peut-être plus de facilité à répondre à la question suivante. Y a-t-il un livre d'histoire que vous jugez indispensable d'avoir lu ?
Indispensable ? J'ai cité Marc Bloch.
Oui.
Eh ben voilà.
L'étrange défaite.
L'étrange défaite de Marc Bloch. Je pense que c'est indispensable. Non pas que c'est le livre qui va couvrir tous les livres d'histoire, c'est pas pour ça. Mais Marc Bloch, son entrée prochaine au Panthéon, il est tellement cité. Voilà, ça c'est un bon livre d'histoire au sens où tout le monde en parle sans l'avoir lu.
Oui.
Eh ben c'est l'occasion de le
lire. Alors, dernière question, Xavier Mauduit. Si vous pouviez vivre dans une autre époque, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?
Bah, une autre, non. La nôtre, je vous dirais, parce qu'on est quand même les héritiers de tant de combats sociaux. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à tous ces combats du passé. Et puis moi, je suis fasciné par l'accès à l'information que nous avons. Après, faut faire attention comment elle est utilisée. Mais j'aime bien notre temps.
Merci, Xavier Mauduit.